Au café service, pour participer à l'émission 081 890 63 94 par SMS 081 070 20 50 ou internet service@radiocafé.net.
Docteur Kamanga, vous êtes pédiatre à la clinique Ngaliema, vous êtes avec nous dans ce studio. La première question, est-ce qu'il existe des maladies saisonnières chez l'enfant, vous en tant que spécialiste?
Oui, merci pour la question. Il existe bel et bien des maladies dites saisonnières chez l'enfant, et cela est également valable chez les adultes. Et donc, comme vous l'entendez, ce sont des maladies qui sont cycliques, qui viennent pendant les périodes de saison, et chaque saison a sa particularité par rapport aux maladies qui peuvent affecter les enfants pendant cette période. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des maladies saisonnières.
Alors, quelles sont les maladies qui apparaissent notamment pendant la saison sèche? Parce que déjà là, cette saison bat son plein, les mamans ou certains parents se posent la question comment ils doivent s'y prendre. Si vous pouvez peut-être nous faire une idée, une idée très claire là-dessus, autour des maladies qui apparaissent pendant cette période.
Voilà, nous avons ici, chez nous, dans les régions équatoriales, la chance d'avoir deux saisons, ce qui n'est pas le cas pour les pays occidentaux qui sont au nord, par exemple, il y a quatre saisons. Alors, ça veut dire que nous avons deux lots de maladies qui s'accordent avec les deux saisons. Nous sommes maintenant en train de la saison sèche, qui est caractérisée en fait par cette sécheresse, parce qu'il n'y a pas de pluie, et donc c'est une chaleur sèche, avec un vent qui est également sec. Alors les conséquences de ces deux phénomènes, c'est quoi? C'est que le vent vous amène toutes sortes de poussières, et dans ces poussières, vous avez beaucoup de particules, parmi lesquelles des particules comme des grains de pollen, comme des particules poussiéreuses, mais aussi des micro-organismes comme des virus, comme des bactéries, comme des champignons. Et donc, toutes ces particules sont susceptibles, par le moyen de ce vent, de pouvoir véhiculer toutes ces maladies chez les enfants qui, vous savez, sont plus vulnérables que les adultes parce que le système immunitaire est encore en développement. Voilà, donc vous aurez toute une panoplie de pathologies. Les plus fréquentes, comme vous l'avez annoncé dans l'introduction, c'est des maladies de voie respiratoire. Vous savez, le vent, quand il l'emporte, c'est d'abord les voies respiratoires qui accordent une plus grande surface de réceptivité, ce qui fait que tous les micro-organismes, toutes les poussières que nous inhalons vont droit dans les poumons. Et tout à l'heure, pour vous signifier l'ampleur de cette atteinte, les poumons sont parmi les tissus qui a une très très grande surface, ce qui fait que l'impact par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur est plus important au niveau du système respiratoire que pour n'importe quel autre système.
Voilà. Voilà, alors aujourd'hui, c'est vrai, on a souvent peur de la saison sèche hein, par rapport à la saison de pluie. Si ça, il faut vraiment le dire, parce qu'on constate quand même beaucoup de dégâts sur le plan sanitaire. Et si on s'y prenait pas à temps ou on ne sait pas comment s'y prendre. Aujourd'hui, c'est vrai, s'il faut vraiment faire une comparaison entre la saison sèche et la saison de pluie, quelle est la saison la plus favorable où des maladies ne sont pas plus dangereuses par rapport aux enfants? C'est une question de curiosité. Parce que une maman, par exemple, qui a une bande séquée, qui ne sait pas, qui dit, l'engrais commis, il faut faire attention, il faut ressembler à la rabanne à la pule, hein, et, on ne sait pas trop de quelle maladie s'agit. Voilà, donc si vous pouvez peut-être nous dire quelles sont les maladies.
D'abord, la saison la plus favorable. Je dirais que la saison idéale serait une saison où il ne fait pas très chaud, où il ne fait pas très froid non plus, où la chaleur qui est projetée est humide, c'est-à-dire que l'humain, la personne vit dans un environnement où il peut respirer de l'air pur, humide, et il ne transpire pas trop, il n'a pas trop froid non plus. Malheureusement, nous n'avons pas cette possibilité-là. C'est une saison idéale, ce qui veut dire que chaque saison, ici nous en avons deux, la saison de pluie et la saison sèche. Alors, chaque saison a ses avantages et ses inconvénients. Alors, pour revenir aux maladies qui sont fréquentes dans le temps de la saison sèche, nous avons parlé des bronchites. Les bronchites, ce sont des inflammations des bronches qui sont dues à la présence soit d'un micro-organisme, soit d'une particule.
Est-ce qu'elle aurait un caractère dangereux?
Mais bien sûr, la bronchite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à partir du moment où les voies respiratoires sont affectées, ce sont les bronches qui sont affectées, le caractère dangereux devient imminent parce que la propagation peut se faire très vite vers les tissus pulmonaires, donc vers le parenchyme pulmonaire, et développer des maladies beaucoup plus graves, comme les bronchopneumonies, comme les pneumonies, et comme vous le savez, pour le moment, et d'après les statistiques, c'est les maladies respiratoires aiguës, et particulièrement la pneumonie, qui est devenue le plus grand tueur de l'enfant, et il y aura 5 ans actuellement, de 9%. Donc c'est assez énorme, c'est même plus le paludisme dans le contexte, c'est les maladies respiratoires. Donc il faut un accent particulier par rapport à la prévention que nous devons appliquer face à ces maladies-là. Alors, au-delà des bronchites, vous avez tout ce qui suit. Je parlais tout à l'heure de bronchopneumonie. Là, c'est une atteinte à la fois des bronches et du parenchyme pulmonaire. Donc, c'est une atteinte beaucoup plus massive. Il y a les pneumonies qui intéressent particulièrement les tissus parenchymatés des poumons. Donc, il y a une partie du poumon qui, à cause de l'infection, à cause de l'inflammation qu'elle subit, ne sait plus respirer, faire des échanges gazeux correctement. Et puis, la présence de ces germes à l'intérieur peut se faire que la multiplication de ces germes peut éclore vers une situation beaucoup plus dramatique, c'est-à-dire une septicémie. Donc là, ça devient encore plus important. Une septicémie, c'est une colonisation globale de l'organisme à travers le sang. Et donc là, ça devient plus grave encore. Donc,
si je comprends bien, rien n'est bénin. Rien n'est bénin.
Rien n'est obligé du tout. Surtout en cette période, nous avons dit qu'elle est caractérisée par les vents, avec toutes les poussières qui sont amenées. Et du fait qu'il ne pleut plus, la poussière est vraiment au rendez-vous. Et elle est caractérisée également par le froid.
Tout à fait.
Ben, nous sommes dans des conditions climatiques de la région équatoriale. Et bon, le froid qui est véhiculé ici pour nous, ça fait froid, mais si c'est un Européen qui débarque ici, il dirait que
c'est pas froid. C'est pas froid.
Donc, ça devient très relatif, mais dans tous les cas, parce que notre organisme est habitué à vivre dans ces conditions, il faut considérer que là, nous sommes en période de froid, et le froid n'est pas sans conséquence par rapport à la favorisation de la méditation.
Et qu'est-ce qui fait que, à l'annonce d'une saison, à l'arrivée d'une saison, juste 2 semaines avant ou 3 semaines avant, on remarque quand même certains symptômes particuliers, surtout lors du changement de saison, des enfants tombent malades, et surtout avant, parce que nous avons vu 2 semaines avant la saison sèche, les enfants sont tombés malades. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe malade en amont, donc avant l'arrivée de la saison, et pendant la saison, parfois, on s'acclimate et puis on s'habitue?
Ah oui. Vous avez utilisé un mot très important, le fait de s'acclimater. Mm-hmm. Vous savez, l'organisme est habitué dans un milieu. Alors, cette habitude fait que même son système immunitaire s'adapte par rapport à l'écologie, c'est-à-dire à tout ce qu'on trouve dans le milieu dans lequel il vit. Alors, il y a une sorte d'harmonisation du fonctionnement de l'organisme par rapport à l'environnement. Alors, à partir du moment où il s'annonce un changement d'environnement, il est demandé à l'organisme de pouvoir faire des modifications pour pouvoir s'adapter. Et cette modification demande que l'organisme soit suffisamment pourvu de ses moyens de défense. Et vous savez, c'est une lutte. Ces moyens de défense peuvent être dépassés. Et c'est ce qui fait que, à chaque changement de saison, parce que l'organisme doit s'adapter à une nouvelle situation, il y a une petite dépression immunitaire qui fait que, finalement, les enfants tombent régulièrement malades avant de s'adapter à la nouvelle saison. Et bien sûr, avec le lot de toutes les maladies qui lui sont connues, dont je viens de parler tout à l'heure, particulièrement les maladies
d'abord la bronchite, la bronchopneumonie,
la respiratoire.
081-890-63-94, c'est pour les appels, et les 081-070-20-50 pour les SMS.
Vous écoutez Radio Capi? Merci. Je suis Karine Galimbaya, votre animatrice du week-end. Je vous invite à passer un week-end sourire avec moi. Samedi, dimanche, de 9h à 13h, heure de Kinshasa.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Et si vous nous rejoignez, bienvenue à Au Capi Service. Nous avons dans ce studio Dr Luc Kamanga, pédiatre à la clinique Galema. Et si vous avez des préoccupations et pourquoi pas des questions à poser directement à notre invité qui va vous rendre service, posez-le au 081 890 63 94. Nous parlons des maladies saisonnières chez l'enfant. Vous êtes parent, peut-être vous passez un moment difficile en ce moment avec votre enfant, pourquoi pas votre bébé, et qui a manifesté certains symptômes qui vous met un peu perplexe, qui vous inquiète. Alors donc, n'hésitez pas, rejoignez-nous donc avec vos questions. Dr Luc Kamanga, pédiatre à la clinique Galema, est dans ce studio et pourrait éclairer votre lanterne là-dessus. Comment d'ailleurs vous allez vous y prendre? Alors docteur, selon certains experts, ces maladies, vous avez déjà cité, par rapport à la saison sèche, et notamment la bronchite et le bronchopneumonie, pardon, est-ce que ces maladies peuvent être évitées?
Ah oui, bien sûr. Et c'est pour cela qu'il est important que l'on mette un accent sur la prévention. Ces maladies, du moment que nous connaissons comment elles surviennent, c'est-à-dire la pathogénie, nous pouvons, avec certains éléments, contrecarrer l'éclosion de celles-ci. Parmi les mesures à prendre, c'est d'abord éviter le refroidissement chez les enfants. Nous sommes en période sèche où le vent est froid, et donc il faut éviter d'exposer les enfants à ce vent est froid. Donc il faut les habiller correctement, suffisamment chaudement, mais ne pas les enfermer dans une sorte de cagoule où à la main il respire plus. Donc les habiller correctement, éviter de les sortir au grand vent, éviter les poussières. Cela signifie également que nous devons entretenir et l'intérieur de nos maisons par rapport à l'aération, par rapport à la poussière qui peut traîner dans la maison, mais aussi l'extérieur de nos maisons. Pourquoi pas nos routes et ainsi de suite, parce que bon, c'est finalement toute la surface qui est affectée. Donc, si nous pouvons éviter ces poussières, éviter que ces saletés qui traînent partout et qui sont finalement véhiculées par le vent continuent à traîner, nous pouvons éviter sensiblement de ces maladies. Et au-delà de tout ça, bien sûr, il faut essayer d'aider l'organisme à pouvoir bien se défendre. Ça veut dire qu'il faut bien nourrir l'enfant. Vous savez, le froid, pour combattre le froid, il faut produire de la chaleur, il faut des calories. Et ces calories, ça ne peut venir que d'une alimentation adéquate.
Et je prends un exemple pratique des mamans qui préfèrent, disons, qui proposent parfois une douche chaude hein, pendant cette période, une douche à leurs enfants. Ils mettent de l'eau chaude pour laver leurs enfants. Et parfois, certains enfants ne supportent pas cette eau très chaude. Je ne sais pas, quel commentaire pourriez-vous faire en tant que médecin? Est-ce que c'est une bonne pratique, chaque fois, pour laver les gens à l'eau chaude?
L'eau chaude, non. L'eau chaude, ça signifie que...
Ça dépend.
Le principe, c'est de ne pas changer très brusquement la température du corps par un apport extérieur. Ça veut dire que l'eau que vous utilisez, sa température doit s'approcher un petit peu de la température corporelle. Cela permet à l'organisme justement de ne pas subir ce choc-là et de ne pas développer les mécanismes de défense. Vous savez, contre le froid, l'organisme peut développer d'autres mécanismes pour produire de la chaleur. Chez les adultes, vous avez des frissons, c'est pour produire un peu de chaleur et essayer d'équilibrer. Et donc, c'est pour éviter tout cela qu'il est conseillé effectivement d'utiliser de l'eau tiède pour les enfants, de réguler le changement vital de température. Vous savez, notre organisme est entre 36 et 37 degrés Celsius. L'eau que vous utilisez, peut-être qu'elle est à 10 degrés. Et vous voyez que vous demandez à l'organisme...
C'est difficile, hein, de savoir l'organisme. L'eau tiède là, c'est autour de...
Ah non, l'eau tiède,
Nous, on pense par exemple à cette maman qui a une pancake ou à une soucoupe, par exemple. Cette maman, bon, je ne sais pas, qui n'a pas l'unité de mesure pour savoir, ou peut-être la température, un thermomètre.
Ah non, vous savez, hein, moi j'ai confiance en ma mère, hein. Quelqu'un filtre
juste avec la mère.
Oui. Une mère, avant de laver son enfant, elle, faisant de façon réflexive, elle utilise la même eau là, sous sa propre peau. Si elle est supportable sous sa peau, elle juge la température à partir de cette eau qu'elle dépose sur le dos de sa main. Et si c'est convenable, à ce moment-là, elle y va. Ça signifie que elle essaie de jauger est-ce que la température de cette eau est supportable pour l'enfant. C'est comme ça qu'elle y va.
Donc, généralement, on peut éviter d'utiliser de l'eau à une température un peu.
Trop élevée, c'est pas bon. Trop bas non plus, c'est pas bon. C'est pour ça que dans les pays froids, comme en Europe, toutes les maisons sont pourvues, notamment
de chauffage et de chauffage.
Tout ça, c'est pour essayer de maintenir une certaine homéothermie, on dit ça comme ça en jargon médical. Donc, une constance de température de l'organisme par rapport à l'environnement.
Donc, et voilà, c'est le principe pendant cette saison, combien de fois faudrait-il laver son enfant, son bébé, deux, trois fois? Parce que pendant cette saison, c'est difficile, même les adultes, certains adultes n'arrivent pas à prendre leur douche, et les bébés, voilà, ou les enfants,
Mais je pense que l'hygiène corporelle exige qu'on se lave au moins deux fois sous la journée, même si c'est froid. De l'eau que nous pouvons avoir de l'eau tiède, pourquoi pas. Donc on se lave le matin, on se lave le soir, parce que quand vous sortez, vous avez tout ce qu'il y a dans l'environnement qui est sur vous. Ce n'est pas perceptible facilement à l'œil, mais il y a plein de poussière, il y a plein de contacts. Donc il est toujours conseillé de se laver au moins le matin et de se laver également le soir.
Ce soir, nous allons parler dans quelques instants de la prise en charge médicale, parce que c'est vrai, pendant cette saison, il y a apparition de certaines maladies respiratoires dont vous avez cité d'ailleurs, la bronchite, le bronchopneumonie. Mais avant cela, nous prenons d'abord nos auditeurs qui viennent à peine de nous rejoindre, Christian Bokessé de Mbandaka à l'Équateur, ainsi que Étienne Katumanga de Kananga. Christian Bokessé, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour Monsieur J.M. Ngembo, bonjour à l'invité, pourquoi pas tous les auditeurs du magazine Okapi Service.
Et vous avez votre préoccupation?
J'ai des questions à poser à l'invité. La première est la suivante. Je voudrais demander à l'invité, lorsqu'on a un enfant et que cet enfant souffre d'une maladie saisonnière, par exemple la bronchite, et qu'on lui donne le médicament, maintenant, ma question, je voudrais savoir si cette maladie peut prendre toute la durée de cette saison-là ou ça peut être éradiqué tout en prenant le médicament. Ça, c'est la première question. Et la toute dernière question, je voudrais que l'invité nous dise, parce qu'il est expert en la matière, qu'est-ce qu'on peut réellement faire pour prévenir les enfants qui ne sont pas souffrants de ces maladies saisonnières. Merci, Radio Capitaine.
Merci Christian. Voilà, nous venons directement aussi la question d'Étienne. Étienne Katumanga, bonjour.
Bonjour papa.
Vous nous avez appelé de Kananga, quelle est votre question?
Ok, ma question est de savoir si l'invité peut nous aider. Il vient de parler maintenant que pour combattre le froid, il faut quelques aliments qui créent un peu de la chaleur. Alors, je ne sais pas s'il peut nous aider quelques aliments qui créent de la chaleur dans le corps.
Merci beaucoup, Étienne. Alors, docteur, deux préoccupations.
Oui, tout à fait. Par rapport à Christian, qui a posé des questions pertinentes, je voudrais d'abord le rassurer. Les maladies saisonnières, nous avons dit, c'est des maladies qui viennent pendant les saisons et elles sont particulières à cette saison-là. Ça veut dire que la saison joue en quelque sorte un facteur favorisant. Il favorise, par exemple, que les germes qui sont traînés dans le milieu soient véhiculés et soient, disons, véhiculés vers les malades. Mmh. Et ils sont atteints. À partir du moment où l'individu développe la maladie, il y a une cause. Cette cause peut être bactérienne ou virale. Mmh. Donc, si vous combattez cette cause-là, la maladie va se terminer. Il n'est pas dit que parce qu'elle est saisonnière, elle va rester pendant toute la saison. Non, vous la combattez par les moyens médicamenteux, par la prévention, par les moyens médicamenteux, et ça sera fini, elle va partir. La deuxième question qu'il a posée, je crois que c'était à vous.
La deuxième, que peut-on faire pour aider donc des enfants qui ne sont pas malades,
hein, pas les donner, oui, la prévention, nous allons revenir là-dessus. Pendant cette saison, voilà des choses pratiques qu'il faut faire. Éviter de sortir les enfants à bas âge très tôt le matin parce qu'il fait plus froid pendant ce matin-là et il y a un vent fort. Habillez-les correctement, mais dans la maison, non seulement la propreté doit être maintenue, l'aération également doit être maintenue, mais il faut que ces enfants soient habillés correctement. Il faut des pulls, par exemple, pour ses enfants, surtout le matin et le soir, surtout pendant les périodes où il fait très froid. Éviter qu'ils soient en contact avec les poussières, cela est difficile dans le milieu parce qu'il y a plein de poussières, c'est de la terre partout. Mais les parents doivent faire un effort pour exposer le moins possible leurs enfants à ces poussières. Et puis, ils doivent assurer leur alimentation. Vous savez que c'est à travers l'alimentation que nous avons des vitamines et des sels minéraux, que nous avons tous les éléments, notamment les protéines.
Avant de parler des aliments, oui. Parce qu'il y a Étienne qui a posé la question, nous rappelons à nos auditeurs qu'ils peuvent nous faire parvenir leurs préoccupations 081-890-63-94.
Au café service, pour participer à l'émission 081-890-63-94, par SMS 081-070-2050 ou internet service@radiocafé.net.
Voilà, docteur, il y a Étienne Katumanga de Kananga qui a parlé de la lutte, hein, donc comment combattre le froid pendant cette saison, quels sont les aliments appropriés qu'on peut prendre pour ne plus que se rendre un peu fort et avoir une alimentation très 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 importante qui pourrait peut-être équilibrer aussi la santé de l'enfant.
Il y a trois groupes d'aliments, les glucides, les protéines et les lipides.
Les glucides, les protéines et les lipides.
Les aliments les plus calorifiques, si vous voulez, qui donnent beaucoup plus de calories, ce sont les lipides. Les glucides ont la particularité de donner le glucose le plus disponible. Donc, il faut que ces aliments contiennent beaucoup de glucides. Ça, c'est plus disponible, facilement utilisable. Hein? Mais il y a également les protéines qui ont un certain nombre de calories qui peuvent dégager. Les lipides également, qui sont en fait des calories de réserve, si vous voulez. Dans tous les cas, l'alimentation doit être équilibrée. Il doit y avoir des glucides, des protéines et des lipides dans cette alimentation.
Alors, je ne sais pas si c'est un constat d'un néophyte, hein, mais on a toujours remarqué que pendant cette saison, les enfants ont une faim de loup.
Ah oui, c'est une réaction tout à fait normale. Hein. Le froid, comme je l'ai dit, existe de la part de l'organisme. Beaucoup de calories pour pouvoir produire de la chaleur.
Mmh.
C'est pour cela que justement l'organisme demande de manger beaucoup, parce que plus on mange, plus on a de calories, mieux on combat le froid.
Alors, on va aider les auditeurs qui ne sont pas trop techniques, trop techniciens. Glucides, par exemple.
Bah oui,
bon, je parle de glucides, un exemple. Qu'est-ce qu'on peut consommer?
Qui contient du sucre, par exemple. Voilà. Dans le foufou, il y a de l'amidon.
Uh-huh.
Dans le riz, il y a de l'amidon. Dans le pain qu'on mange tous les jours, il y a de l'amidon. C'est du sucre. Même le sucre de table qu'on utilise, ce sont des aliments qui contiennent du sucre facilement mobilisable. Alors, parmi les protéines, c'est tout ce qui est viande, tout ce qui est œufs, tout ce qui est haricots, le chenille, notamment, qu'on trouve dans le milieu, ce sont des aliments qui contiennent beaucoup de protéines. Les protéines sont des aliments de construction, ok? C'est avec ça que nous développons nos muscles, c'est avec ça que nous développons la plupart des tissus de notre organisme, et les aliments qui contiennent des lipides sont ceux qui contiennent un peu plus de graisse. En foutre un goulot, par exemple, là, il y a beaucoup de graisse. Et l'huile que nous utilisons, l'huile de palme, même l'huile blanche que nous utilisons, ça, tout ça, c'est la margarine, le beurre, tout ça, c'est des aliments qui sont très riches en lipides.
Voilà. Docteur Kamanga, Luc, vous êtes pédiatre à la clinique Galéba. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt.
C'est moi, je vous remercie. Merci.
Okay.